l'on sera comme d'un homme partant pour un voyage qui appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talons. De même, celui qui avait reçu les 2 talons en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talons s'approcha en apportant 5 autres talons. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talons. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talons s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talons. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talon s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher mon talon dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi, avec intérêt. Ôtez-lui donc le talon et donnez-le à celui qui a 10 talons. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Une histoire dure, vous allez me dire. Une histoire que nous, en tant que chrétiens, on n'aime pas trop ça. On n'aime pas trop cette histoire. Parce qu'on se dit, mais vraiment, si c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Quel est le gros problème de ce serviteur? Quel est le gros problème de ce serviteur? C'est la peur. Et c'était aussi un petit peu le thème, en fait, de ce matin, c'est la peur. Comment, en fait, nos peurs, parfois, nous paralysent? Qu'est-ce qui nous empêche, parfois, de réaliser certains projets? Comment réagissons-nous face à la peur? La majorité des auteurs bibliques définissent la peur comme le contraire de la foi. Mais pourtant, la naissance de Jésus elle-même suscite la peur. Vous vous rappelez les bergers, hein? Ils furent saisis d'une grande frayeur, la peur. La peur est bonne à la base, elle sert à nous protéger. Parfois, en fait, quand on a une peur de faire quelque chose, c'est pas toujours, il faut se dépasser, y aller. Parfois, on en reçoit des peurs qui peuvent être des bonnes peurs. En fait, où il faut qu'on fasse attention, qu'on n'aille pas plus loin. Les bergers ont peur, les disciples ont peur lors de la tempête. Ce qui est inconnu suscite la peur, souvent. Et en fait, dans l'histoire de la tempête, on voit Jésus qui dit, « Mais est-ce que vous n'avez pas de foi? N'avez-vous pas encore de la foi ?» La peur est mauvaise conseillère, elle nous ligote. Les disciples ont peur quand ils voient marcher Jésus sur l'eau. Hein, ils ont une grande frayeur. Ça nous rappelle l'histoire des bergers et puis l'histoire des disciples. Quand ils voient Jésus marcher sur les eaux, une grande frayeur. C'est la présence de Jésus qui met fin à la peur. C'est la connexion avec Jésus qui met fin à la peur. « N'ayez pas peur », qui dit « L'amour parfait bannit la crainte ». La peur est toujours, Voilà, peur est toujours ici, est toujours présente dans nos vies. Elle a toujours un objet, c'est quelque chose qui se passe, qui nous fait peur. Hein. Il y a peut-être un bruit. L'autre jour, quand je me promène le soir, j'aime pas quand les voitures me viennent derrière. J'ai toujours peur. Ça, c'est une peur, mais il y a quelque chose derrière. Hein, je sais pourquoi. Et puis, quand on a vécu des dangers, on a particulièrement peur sur certaines choses. Quand on a peut-être été puni sur des choses, on a toujours peur chaque fois que les choses se reviennent, en fait, se refont de la même manière. On est souvent atteint de peur. L'angoisse, elle, n'a pas d'objet. L'angoisse, c'est encore un cran, je dirais, au-dessus de la peur. L'angoisse, en hébreu, se dit Mitzraim. C'est aussi le nom de l'Égypte. J'ai trouvé ça intéressant. En fait, l'angoisse, c'est le nom de l'Égypte. Alors pourquoi on dirait l'Égypte? Pourtant, c'est un beau pays. Mais non, mais quand le peuple hébreu était en Égypte, ça voulait dire l'Égypte pour eux, l'angoisse. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On peut traduire, c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'angoisse. Du pays de l'angoisse, de la maison de servitude. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous, nous faire sortir de nos pays d'angoisse, de notre pays de la servitude, là où on est gardé, en fait, coincé, fermé. Dieu veut nous libérer des angoisses et on le voit, en fait, pas aussi dans la bouche de Paul, on le voit dans l'Ancien Testament par l'histoire de l'Égypte, mais aussi quand Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, vous n'avez pas reçu, mais un esprit qui vous libère, qui vous ouvre. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour rester enfermé. Mais la peur, elle est mauvaise conseillère. Parfois, nous prenons pour dangereuses les choses nouvelles et inconnues. Pourtant, c'est cette présence du Christ qui peut mettre fin à nos peurs, qui veut mettre fin à nos peurs. C'est en fait sa présence qui veut rompre en fait le caractère de la peur en nous. Sa présence silencieuse dans nos vies. La peur est tellement banale dans toute la Bible, comme elle l'est dans toutes nos vies, qu'en fait, 365 fois, c'est mis « n'aie pas peur ». Une pour chaque jour chaque jour par année. Alors, important de ne pas rester dans ses peurs. Mais tu me diras, ben Catherine, c'est facile à dire. Comment est-ce qu'on peut vaincre la peur? Comment est-ce qu'on peut vaincre l'angoisse? Mais qu'est-ce qu'on fait en fait quand on est atteint par la crainte, quand on est atteint par la peur, comme on est atteint par l'angoisse? On le voit aussi dans ce troisième homme qui a reçu qu'un talent. En fait, lui, il est aussi atteint par la peur. Mais j'ai une petite question pour vous ce matin. Qu'est-ce qui fait que nous sommes souvent atteints par la peur, par la crainte, par l'angoisse? Qu'est-ce qui crée, en fait, chez nous la peur, l'angoisse, la crainte?
Les événements.
Ouais, les événements.
Dans le monde, ce qui se passe. Ouais.
Oui.
Ça donne pas confiance, quoi. Si on met comment dire, si on voit le monde tel qu'il est, qu'on n'a pas confiance, quoi. Après, si tu mets ta foi en Dieu, je pense que, comme tu dis, ça a banni la crainte.
Un manque de confiance.
Oui, manque de confiance, oui, tout
Ça
à
veut
fait.
mourir.
Oui. Moi, j'ai mis la solitude aussi. La solitude, je pense que souvent, se trouver seul face à des situations est générateur de peur et de crainte. J'ai mis aussi le manque de connaissance. Parce que si on est vraiment dans une relation avec Dieu et qu'on lit sa parole, En fait, on apprend quand même quelque part comment avancer face à toutes ces situations de crainte, de crainte, de peur qu'on a en nous. Et puis les doutes, hein? Doutes souvent. En fait, on dit qu'une des grandes sources de la dépression, c'est quand les gens, en fait, n'arrivent plus à croire. Ils sont pris dans des doutes, dans l'impossibilité de croire, l'impossibilité de faire confiance. Et ça amène à la dépression. La culpabilité aussi, des choses qu'on a vécues et qui nous enferment. Alors, comment rétablir cette confiance? Comment rétablir cette connexion avec Dieu? Alors, je crois que on le voit dans cette histoire de talents, c'est 100% nous et 100% Dieu. C'est pas seulement une partie de Dieu qui fait tout le travail et puis nous qui ne faisons rien. C'est 100% nous et 100% Dieu dans ce chemin de réapprentissage de la vie. On le revoit en fait dans cette image de ce peuple qui marche dans le désert, hein, qui quitte l'Égypte pour aller vers le pays de Canaan, qui quitte l'Égypte pour aller vers le pays de la promesse. Il y a tout un apprentissage de la confiance qui doit se faire. Il doit réapprendre à vivre vraiment dans la confiance. Ils ont été forcés dans quelque chose, ils ont été opprimés, ils ont vécu vraiment dans la peur et il faut réapprendre la confiance. Et j'aimais cette image de cet ami qui passait par des temps difficiles, qui disait, je prie toujours le Seigneur, quand je passe par ces temps difficiles, je dis, je vois toujours cette image en fait qui est de l'ancien temps où on voyait des bœufs qui tiraient un char, et en fait, à mesure que, quand les bœufs étaient fatigués, on venait mettre un coin sous la roue pour que finalement le char ne reparte pas en arrière. Et il disait, ben, des fois, on a besoin de souffler, on a besoin de s'arrêter, on a besoin de faire le point sur nos vies. Il y a des choix dans le désert qui conduisent à la mort. Ceux de se trouver une sécurité trop vite, de vouloir tout, tout de suite. On le voit d'ailleurs dans le peuple du désert, quand ils ont construit leur idole, hein? Ils ont construit une idole parce que pour eux, ben voilà, il leur fallait quelque chose qui marche devant eux. Dieu ne leur n'était pas suffisant. Et puis on les voit aussi dans les peurs aussi de manquer de nourriture avec la manne, le peur aussi d'avoir pas assez à boire avec l'eau, Moïse qui frappe le rocher avec colère en fait, et il y a de l'eau qui sort de ce rocher. Et en fait, il aurait dû parler au rocher, c'était ce qui lui était demandé. Mais je pense qu'il en avait tellement marre des fois d'un peuple qui murmurait derrière lui que voilà, il a dit, bah, maintenant, moi, je vais leur montrer un petit peu. Et puis, il y a toujours, tout au long de ces histoires, ah, comme c'était mieux en Égypte. On est des fois oublieux. On est des fois, on a oublié qu'on faisait un travail harassant, qu'on était dans une mauvaise situation. On est oublieux des choses qu'on a vécues déjà. Nos fausses images de Dieu génèrent la peur. On le voit ici, dans cette histoire des talons. Une fausse image de Dieu qui génère cette peur. C'est en fait, ça peut être dû en fait à ce que notre relation avec Dieu, avec un Dieu comme un père, est faussée déjà par notre relation humaine. Elle est polluée par notre relation avec un père terrestre. Mais Dieu, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas cloisonné. Mais le Seigneur veut venir et ouvrir des choses. Ce dernier homme-là, il avait un potentiel puisqu'il avait reçu un talent. Il avait un potentiel à faire fructifier. Il n'a pas pu le faire fructifier. Pourquoi? Il n'a même pas eu la pensée. Il a été l'enterré. Hein, il a été l'enterré. Il n'a même pas pensé de le donner au banquier, de donner à quelqu'un d'autre pour le faire fructifier. Il était tellement enferré dans ses croyances, tellement enferré dans sa peur, tellement enferré dans une fausse image. Parfois, nos vies sont remplies de crainte à cause des fausses images. D'ailleurs, vous entendez ce qu'il dit, au maître, mais qui est en l'occurrence l'image de Dieu. Tu moissonnes où je n'ai pas semé, moissonne, hein, tu moissonnes où je n'ai pas, où c'est le contraire. Ouais. Donc en fait, c'est ce mensonge en fait. C'est vraiment croire des mensonges. Souvent, en fait, dans notre relation avec Dieu, si on n'y fait pas gaffe, on peut croire des mensonges qui nous ont été mis sur nous à cause des vaines manières de penser de nos ancêtres, mais aussi à cause des choses qu'on a reçues en tant qu'enfant, des choses qui nous ont été données, qui nous ont été créateurs en nous de peur, comme « ah oui, tu es nul, tu feras jamais rien », des choses comme ça. Ça a été des choses qui ont été semées en nous et c'est des mensonges. C'est des mensonges. Ouais, il y a aussi tu amasses ou tu n'as pas vanné. Cette espèce de pitié de soi. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est comme ça? On se retourne sur nous-mêmes. Le fait d'enterrer son talent, ça montre bien qu'en fait, il ne sait pas qu'en faire de ce talent. Il n'arrive pas à le recevoir. Il n'arrive pas à recevoir ce talent. Et parfois, on est comme ça, nous aussi. On a peur et on n'arrive pas à recevoir notre talent dans nos vies. On l'enterre parce que finalement, on ne sait pas trop qu'en faire. Parce qu'on n'est pas sûr, on ne fait pas confiance, on n'arrive pas à faire confiance. Se construire une pensée, on construit des pensées qui sont complètement fausses. Est-ce qu'il sait ce qui se passe pour cet homme? Mais en fait, le Seigneur nous demande que d'analyser aussi nos pensées et de les tourner vers lui, de les lui apporter, de les lui remettre et que dans ses pensées, lui, il pourra venir et changer les choses. Enfin, ce serviteur, il a reçu le talent, mais il a eu peur. La peur l'a complètement paralysé. La peur l'a enfermé. Ma vie en Christ me tire vers la confiance. C'est une nouvelle relation avec la confiance. Cette vie en Christ, elle me tire à entrer dans une relation de confiance, vers la connaissance aussi. J'aimerais qu'on lise un deuxième texte aussi, sur lequel aussi je me suis appuyée pour cela. C'est dans Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Jacques 1, versets 22 à 25. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Je trouve que tout le programme, en fait, du dernier homme qui a reçu un talent est vraiment là, en fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est refermé. Il s'est refermé dans sa coquille, il a regardé à lui-même, il a regardé à ses difficultés et il ne s'est pas ouvert. Il ne s'est pas ouvert. Ce texte parle aussi de plonger le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Il y a aussi cette idée de de plonger nos regards. C'est pas seulement regarder comme ça de manière superficielle. C'est plonger nos regards dans la parole. Ça, c'est important. Dans une loi parfaite, et j'aime bien parce que c'est la loi de la liberté. Ça semble parfois un pléonasme parce qu'on dit la loi de la liberté. La loi, ça paraît enfermant, et la liberté, ça libère. Hein? Alors on se dit comment ça se fait que c'est la loi de liberté. Et pourtant, c'est pour cette relation de la loi de la liberté que nous avons été appelés. Jacques, en écrivant cette parole de Dieu, c'est l'importance de la loi, elle donne un cadre. Et du cadre qui permet la découverte de la grâce. En fait, le cadre, il est aussi important et il permet la découverte de la grâce. Il permet d'entrer dans la liberté. Parfois, on dit, mais non, c'est complètement faux. Il faut toute la liberté tout de suite, faire ce qu'on veut, comme on veut. Mais non, la loi nous est donnée pour établir un cadre. Et établir un cadre dans nos vies, c'est important. Et ensuite, à travers ce cadre, on va découvrir la liberté de la grâce. Et puis, bien sûr, dans ce passage aussi, il est parlé de la persévérance, l'importance de la persévérance dans nos vies. Et bien sûr, il y a la traversée du désert, mais nos vies, entre guillemets, sont une traversée. Alors, pour certains du désert, mais pour d'autres aussi une traversée avec des embûches, avec des difficultés. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Ce troisième serviteur, c'est intéressant aussi, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Il avait reçu un don, ce don, c'était son visage et il a été le caché. Il a en fait oublié, il a voulu enfouir une image nouvelle. Il n'a pas voulu recevoir l'image de lui-même nouvelle. Mettons-nous à l'œuvre, c'est vraiment, traversons ce désert, mettons-nous à l'œuvre. Et il y a aussi une belle promesse, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est d'entrer en fait, simplement de ne pas nous laisser paralyser, ne pas nous laisser paralyser par nos peurs, mais cheminer, même si on a besoin parfois de ces temps d'arrêt. Vous rappelez le coin sous le char, hein? S'arrêter de temps en temps parce que la marche est des fois dure, même si on a besoin de temps d'arrêt. Mais cheminons. Ne pas être un auditeur oublieux de qui on est vraiment, des dons que le Seigneur a déposés dans nos vies. Et puis, gérer notre activité, gérer notre vie en connexion avec le Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Gérer nos vies en connexion. Gérer notre activité aussi en connexion. J'aimais bien ce début de temps de louange parce que quelque part on a besoin de la louange. La louange est une chose hyper importante dans nos vies de tous les jours pour pouvoir ensuite entrer dans l'action. On a besoin d'abord de ces temps de connexion profonds avec Dieu. Et ces temps de connexion profonde avec Dieu nous mettent en action, nous font entrer dans l'action. Et cette promesse, celui-là sera heureux dans son activité. S'il met en pratique les choses, s'il entre dans la dimension de Dieu, il sera heureux dans son activité. Et c'est ce qui a manqué à notre troisième homme avec son don. Avec son talent, c'est de le mettre en action pour pouvoir être heureux dans la présence de Dieu. Amen.